Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en présence de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Et selon notre bonne habitude, nous allons regarder ensemble le texte qui sera proclamé dans toutes les églises catholiques du monde en cette fin de semaine. Francine Robert, on peut pas lancer ce texte-là comme ça sans quand même y faire une petite intro. Disons d'abord que ça porte sur la prière. Je pense que là-dessus, on se trompe pas. Mm-hmm. Ensuite, cette parabole-là pourrait être située dans un contexte où la communauté chrétienne de Luc vit des difficultés.
Oui.
Bon. Puis il se demande finalement, Dieu est-il, comme une des phrases dans le Premier Testament, Dieu est-il avec nous, oui ou non?
C'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, bon, Claude.
Je pense que c'est le contexte qui peut nous aider à recevoir cette parabole qui, ma foi, est plutôt surprenante. C'est au chapitre 18 de l'Évangile de Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il leur faut toujours prier et ne pas se décourager. Il disait, « Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulait pas. Et ensuite, il se dit, « Même si je ne respecte ni Dieu ni personne, parce que cette femme m'embête, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il tarde à leur sujet? Je vous le déclare, il leur fera bientôt justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Bon, disons que l'image du juge n'est pas très brillante et que c'est peut-être le reflet de certains juges de l'époque, mais je suis pas sûr que Jésus donne cette petite parabole pour insister sur l'incompétence des juges, quoi.
Non, c'est clair que c'est le personnage de la veuve qui est le personnage le plus important de la parabole. Disons, c'est le personnage de la veuve qui est donné en exemple.
Voilà. Ensuite, c'est une parabole jumelle. Hein?
Oui, oui, il y en a une autre parabole comme celle-là, d'ailleurs. Il y a un exégète qui l'appelle la parabole de la veuve importune parce que sa jumelle, on l'appelle la parabole de l'ami importun. Je signale que ce sont deux paraboles non seulement jumelles parce que très semblables, mais les deux sont propres à Luc. Et en plus, il y a particulièrement trois expressions, mots assez rares dans le Nouveau Testament qui sont présents dans les deux. Donc, c'est clair qu'elles sont presque le décalque l'une de l'autre. Et la parabole de l'ami importun, elle est au chapitre 11, tout de suite après l'enseignement du Notre Père. Je peux juste la rappeler rapidement, Claude. C'est quelqu'un qui va réveiller un de ses amis au milieu de la nuit pour lui demander de lui prêter du pain parce qu'il est pris avec un visiteur imprévu. Et son ami lui répond, « Garde, la porte est fermée, tout le monde dort, je peux pas me lever. » Et Jésus ajoute, « Je vous le dis, même si lui il ne se lève pas en tant qu'ami, il va se lever à cause du sans-gêne de l'autre qui est venu le réveiller au milieu de la nuit et il va lui donner ce qu'il demande. » Alors, cette parabole, elle est propre à Luc et elle est suivie d'un enseignement qui est plus connu des gens parce qu'il est aussi dans Matthieu au chapitre 7. Jésus enchaîne, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, à quiconque demande, on donne. » Bon, vous voyez, je suis certaine que c'est familier là à peu près à tout le monde. Donc, c'est la même structure, hein, on pourrait dire, « Demandez avec insistance, ou à temps et à contre-temps, ça paye. » C'est ça, la logique de ces deux paraboles.
Bon, puis si on insiste, enfin, sur le jumelage des deux, c'est pas juste pour dire que c'est le style de Luc. Il doit avoir une raison plus profonde.
Ben, c'est-à-dire, on pourrait se demander, si l'enseignement est clair la première fois, pourquoi le redonner encore?
Voilà.
On est rendu au chapitre 18, donc 7 chapitres plus loin. Et on constate que c'est le contexte dans lequel la deuxième parabole est placée, donc celle d'aujourd'hui, qui change un peu la portée de cette deuxième. Donc, elles sont jumelles, mais elles ne transmettent pas exactement le même enseignement à cause du contexte. C'est un contexte qui est plus difficile, plus angoissé et qui est lié au problème de durer dans la foi. Continuer de croire, c'est bien beau se convertir, les enthousiastes du début, on connaît ça. Mais il faut durer, et comme vous le disiez si bien au début, Claude, la communauté chrétienne de Luc commence à trouver ça difficile. Le monde grec n'est pas très ouvert au monothéisme, et ça crée des problèmes. Alors, si vous permettez, on va d'abord regarder la parabole et ensuite on regardera le contexte.
Oui, alors l'introduction est très claire. Au premier verset, Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il leur faut toujours prier et ne pas se décourager.
Exact.
Là, ça peut pas être plus clair. Après ça, vient la parabole.
C'est ça, mais c'est assez étonnant. C'est le narrateur, c'est pas Jésus dit « je vais vous montrer qu'il faut toujours prier ».
Vous avez raison.
Ça veut dire que lui-même est pas sûr que la parabole va avoir la bonne portée sur les lecteurs s'il les avertit pas d'avance que c'est à ça qu'elle sert. Ça, je trouve ça assez amusant. Ce souci de Luc, un bon pédagogue, il va être sûr que c'est clair. Alors, donc, cette belle parabole qui met en scène, comme vous disiez, un juge sans justice, vous avez dit un juge incompétent, c'est pire, Claude? C'est un juge immoral. Il est au degré zéro de la conscience. Il n'y a pas d'éthique professionnelle. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est ça. Dans le langage biblique, ça s'appelle « il n'y a pas de crainte de Dieu ». Ça veut dire que les commandements de Dieu, ils s'en fichent.
C'est ça. Et on trouve dans le Premier Testament aussi assez souvent des juges qui ont ce comportement-là.
Absolument, parce qu'ils se laissent acheter. C'était juste dans l'Antiquité, ça, évidemment.
Non, aujourd'hui, on voit plus ça.
C'est pas les juges aujourd'hui qui se font acheter.
Non.
Bon, on revient à nos moutons. Donc, il respecte ni Dieu, ni les hommes, ni les gens, dit le texte. Donc, il désobéit, on pourrait dire, aux deux grands commandements, aimer Dieu, aimer son prochain. Il se fiche de tout le monde.
C'est ça. Et la veuve, maintenant.
Ben oui, le récit est concentré sur ce qu'elle fait. Elle vient le voir et elle dit à l'impératif « rends-moi justice ». Et comme les verbes sont à l'imparfait, ça veut dire qu'elle le fait souvent et longtemps.
Oui, au verset 4, c'est « pendant longtemps, il ne voulait pas ».
Il ne voulait pas, verbe qui est là, « il ne voulait pas » et non pas « il refusait », comme on a dans le lectionnaire. Elle insiste et elle se décourage pas. C'est une femme qui est décidée. C'est le moins qu'on peut dire.
Ouais.
C'est intéressant, d'autant plus que dans la Bible, le personnage veuve, ça incarne plutôt la fragilité sociale, parce que on est dans l'Antiquité, les femmes dépendent des hommes, donc la veuve, elle a plus de mari, elle a peut-être pas de fils en âge de prendre sa défense, elle dépend plus de son père. Alors, elle est vulnérable, elle n'a aucun pouvoir, t'as pas de statut en tant que femme. Elle est donc à la merci de quiconque veut lui faire une injustice. Et dans l'Ancien Testament, ce problème de justice sociale, il est souvent représenté par la veuve, le pauvre, l'orphelin. Et on ajoute souvent aussi l'étranger. Ça revient partout dans la Torah et dans les prophètes. Il faut protéger le droit de ces gens-là. Alors, ça rejoint tout à fait notre Luc.
C'est ça. Luc, c'est une de ses caractéristiques. Il s'intéresse aux petites gens, aux veuves.
Et en particulier aux femmes et aux veuves. Mm-hmm. Par exemple, il y a des veuves dont personne ne parle dans les autres évangiles. La prophétesse Anne au chapitre 2.
La veuve de Naïm.
La veuve de Naïm au chapitre 7. Mm-hmm. Jésus parle de la veuve de Sarepta au chapitre 4. Bon, il y a plus de veuves que les autres, Luc, mais il y a plus de femmes que les autres aussi.
Donc, la situation reste bloquée.
Ben oui. Pendant longtemps, lui,
le juge
ne
veut pas s'occuper d'elle.
Il ne veut pas s'en occuper, tout à fait. Il n'y a aucune compassion. En passant, on a encore là une parabole assez scandaleuse. Nous, on mesure plus ce qu'il y a de scandaleux dans les paraboles. Mais rappelez-vous au chapitre 16, l'intendant malhonnête, le riche qui voulait rien savoir de Lazare. On a des paraboles choquantes.
On est peut-être malheureusement trop habitués. Il faut faire attention.
Choqué. C'est dommage.
Ouais. Et c'est choquant, vous avez raison.
Et la veuve ici, elle est la victime de ce juge sans scrupules, mais je le rappelle, elle est très proactive. Et elle refuse de rester dans l'impasse et dans l'injustice. Elle insiste. C'est pourquoi elle est donnée en exemple, à cause de son insistance, tout comme l'ami importun. Elle dérange.
Et finalement, le déblocage se fait suite à la réflexion que le juge se fait.
En fait, elle dérange.
Elle dérange.
Et on a un petit monologue intérieur ici, comme souvent dans les paraboles de Luc. Pensez encore là à l'intendant qui a perdu son emploi au chapitre 16 ou au fils prodigue. Ici, je meurs de faim, chez mon père, les employés mangent bien. Bon, c'est un petit monologue intérieur qui fait le revirement de situation.
Ça, c'est intéressant, ça. La personne entre en elle-même et elle se fait un dialogue intérieur.
Exact. Et Luc se sert souvent de ça pour faire basculer la parabole. Donc, la situation bloquée va vers autre chose. Et alors, le juge décide de régler, même s'il n'y a ni crainte de Dieu, ni respect des gens.
Mais pour des mauvaises raisons.
Ben oui, il décide de régler son affaire pour des mauvaises raisons. Il veut qu'elle lui fiche la paix. Il a même peur qu'elle lui fasse encore plus de troubles. Donc, il capitule. C'est bon, elle l'a eu à l'usure, la madame. Je trouve ça chouette.
Comme vous avez dit, là, elle a vraiment été proactive.
Absolument.
Là. Elle s'est pas écrasée.
Elle n'a pas baissé les bras.
C'est ça.
Alors, donc, on a le retournement et cette femme qui a été très longuement insatisfaite, finalement, elle obtient satisfaction durable. Elle est rétablie dans son droit. Elle obtient justice. Donc, c'est un happy end. C'est clair que l'injustice doit être réparée, surtout dans Luc. C'est important. Le droit des petits doit être respecté.
Okay. Oui.
Alors, elle illustre de façon vivante, cette femme, l'introduction que vous nous avez rappelée tout à l'heure, prier sans se lasser et ne pas perdre courage. Faire ces deux choses-là, ça conduit à obtenir. Alors, dans ce sens-là, elle pourrait être une figure de la communauté chrétienne, une sorte de figure collective. C'est d'ailleurs ce que le texte va faire dans le commentaire qu'il donne de la parabole. On a plusieurs thèmes de Luc là-dedans, la prière, la constance, le fait d'être actif, d'être responsable de manière active. La prière particulièrement est très présente chez Luc, qui nous montre Jésus en prière plus souvent que les autres évangiles. Pensez au baptême, Jésus prie dans Luc, à la transfiguration aussi, Jésus prie. On n'a pas ni dans Marc ni dans Matthieu la prière de Jésus là. Alors, il invite aussi les disciples à prier. Et un autre aspect que je veux signaler de la prière de chez Luc, parce que ça va être utile pour la suite, même si des fois c'est des prières de demande ou d'action de grâce, c'est aussi des prières en lien avec l'histoire du salut. C'est de reconnaître le salut à l'œuvre. Et je pense au 10e lépreux de la semaine dernière, qui rend gloire à Dieu, c'est une prière, parce que dans sa guérison, il voit plus grand que l'événement qui le touche, il voit le salut à l'œuvre. Et il perçoit l'œuvre de Dieu. Qui est plus large que lui, qui le dépasse. Mais c'est aussi le Dieu qui libère de la prière de Marie au chapitre 1 de Luc, ou la prière de Zacharie aussi au chapitre 1 de Luc, ou de Siméon au chapitre 2. Alors, donc, la prière, elle n'est pas juste une petite spiritualité personnelle, elle est liée au sens de l'action de Dieu dans le monde et de l'histoire du salut. Alors, ça va être intéressant pour notre parabole. Je rappelle aussi, mais ça, vous n'êtes pas sans le savoir, Claude, que la prière dans la Bible, c'est toute la personne qui s'investit. C'est pas « dites telle prière ». Le Notre Père, là-dessus, est une exception.
Ce ne sont pas des formules à réciter.
Non. Mais ça reflète l'attitude de toute la personne devant Dieu, finalement, et donc son agir, l'agir de la personne. Ça va être plus classe, ça. La semaine prochaine, on a encore une parabole sur la prière, et cet aspect-là va être plus important. Alors, sur la parabole, donc, Jésus va tirer deux enseignements. Un premier sur Dieu, Donc, écoutez bien ce qu'il dit ce juge. Si lui fait justice finalement, est-ce que Dieu ne fera pas justice a fortiori? C'est un argument a fortiori, à plus forte raison.
C'est ça. À ses élus qui crient vers lui jour et nuit.
C'est mm-hmm. ça. Remarquez qu'il y a une certaine audace ou une certaine ironie à comparer Dieu à un juge sans scrupules. Alors, et le verset 8 va reprendre, je vous le déclare, il leur fera bientôt justice. Donc, c'est la promesse que les chrétiens vont obtenir une justice, ça sert à nourrir la certitude de la justice de Dieu. Hein. C'est sûr que la prière, comme vous venez de nous le rappeler, des chrétiens, ceux qui crient vers lui jour et nuit, c'est comme un cri, la prière, donc un cri de souffrance, un appel à l'aide, et ça rappelle la situation pénible des chrétiens dans une société qui les marginalise finalement, et où ils ont, comme vous le disiez tout à l'heure, l'impression que Dieu est absent. Et ça inquiète Luc, hein? On est plus au niveau de Luc qu'au niveau de Jésus ici, au niveau du Jésus historique. C'est le doute, est-ce que vraiment le règne de Dieu est encore à l'œuvre dans ce monde? On n'en voit plus les signes, on a du mal à voir les signes. Et il y a une sorte de déception parce que le règne de Dieu n'arrive pas.
Donc, c'est très contemporain, quoi. C'est très...
Au moins pour l'impression que Dieu est absent. Ce qui est moins contemporain de notre christianisme actuel, c'est que dans les premières années du christianisme, les années, disons, 30 à 50, les chrétiens, qui sont d'abord des juifs, sont sûrs que le règne de Dieu, il va arriver très bientôt. Hein, parce que, puisque Jésus est ressuscité et qu'on espère la résurrection pour la fin des temps et le règne de Dieu, bon, ben, la résurrection est commencée, quoi. Ça s'en vient. Mais Luc écrit en 80-85, hein, donc ça fait 50 ans que Jésus est mort, puis le règne de Dieu, là, il n'est pas encore arrivé. Alors, ça devient pénible à attendre, d'autant plus que c'est associé à une sorte de triomphe final. Alors, on a bien hâte que ça arrive. On désire ce moment où Dieu va enfin rendre justice. C'est un petit peu apocalyptique, hein, le contexte dans lequel cette parabole est placée. Ce qu'il y avait entre notre récit du lépreux de la semaine dernière, qui était au chapitre 17, et notre récit d'aujourd'hui, qui est au début du chapitre 18, c'est ce qu'on appelle chez Luc la petite apocalypse. On a des versets de style apocalyptique. Avant, il y avait la question dont j'ai parlé la semaine dernière, « Quand donc vient le règne de Dieu? » Et Jésus répond, « Le règne de Dieu, il est parmi vous. » Et d'ailleurs, je disais, c'est ça la force du lépreux qui revient, c'est qu'il a été capable de voir le règne de Dieu à l'œuvre. Mais, ça enchaîne, il dit aux disciples, « Des jours vont venir où vous désirerez voir, ne fût-ce qu'un seul des jours du retour du Fils de l'homme, finalement, et vous ne le verrez pas. » Et là, ça tourne un petit peu à l'Apocalypse, on va pas lire tout ça, et on voit que c'est plus la même expression, là, peut-être ce qu'on espère, je pourrais peut-être le signaler, ça s'exprime de toutes sortes de manières, ça peut s'appeler le règne de Dieu, ça peut s'appeler le jugement final de Dieu, et c'est là qu'il va rendre justice aux opprimés, et aux fidèles, ça peut s'appeler le jour du Fils de l'homme, parce que c'est le Fils de l'homme qui va exercer le jugement de Dieu. Et pour les chrétiens, le Fils de l'homme, il est identifié au Christ ressuscité. Donc, vous voyez, attendre le Fils de l'homme, ou attendre le règne de Dieu, ou attendre le jugement final, ça veut dire sensiblement la même chose. Hein? Et c'est clair que c'est dans ce contexte-là que notre parabole est placée. C'est pour ça qu'elle n'a pas la même portée que celle du chapitre 11. Elle vise autre chose. Elle vise à dire patientez. Hein? Je le sais, vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Vous cherchez les signes, vous avez du mal à les voir. Patientez, ça va venir. Ça va venir. Vous avez lu, Claude, donc Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Question. Et vous avez lu ensuite, et pour l'instant, il tarde. Et vous avez mis un point d'interrogation sonore. Mm-hmm. Il tarde, il n'y a pas de point d'interrogation. Enfin, la plupart des commentateurs...
Vous avez perçu ça, vous.
Ah oui, je l'ai entendu.
Okay.
Remarquez, ce choix que vous avez fait, sainte pensée, c'est le choix du lectionnaire. Est-ce qu'il l'est fait attendre? Et on se dit, ben non, okay. Il est fait pas attendre. Est-ce que Dieu va rendre justice? Ben oui, il va rendre justice. Et non, il est fait pas attendre. Mais la plupart des commentateurs, sinon tous ceux que j'ai consultés, et les traductions, Tom, Bible de Jérusalem, c'est pas ça le texte. C'est et pour l'instant, il tarde.
D'où l'importance et de la ponctuation.
Même si, il faut bien dire que dans l'original grec, il n'y a pas de ponctuation.
Non.
Mais c'est et pour l'instant, il tarde. Donc, ça veut dire, il ne faut pas perdre courage, même si on constate qu'il tarde. On soupçonne que si Jésus a raconté cette parabole-là, le « et pour l'instant, il tarde », c'est de Luc. Ça n'arrive pas. Je vous entends. C'est comme s'il disait à ses chrétiens, « Je vous entends. Je vous dis que ça va arriver. » Puis vous me dites, « Ben non, ça n'arrive pas. Ça tarde. » Et je vous redis, « Mais il va rendre justice bientôt. » Vous voyez, donc, ne perdez pas courage. La parabole vise à nourrir la certitude que ça va venir, cette justice, bien que le délai soit intolérable. Et la prière peut nourrir la certitude, à condition d'être comme celle de la veuve accompagnée d'une action qui fait arriver le règne de Dieu comme la veuve fait arriver
C'est ça, elle est loin d'être passive, effectivement.
C'est ça, prier, là, c'est pas rester assis puis les yeux fermés, c'est faire quelque chose. Je signale en passant, Claude, un très beau texte dans un livre que les gens n'ouvrent jamais, le Siracide ou Ben Sira dans le Premier Testament, chapitre 35, les versets 13 et suivants. Très beau texte qui reprend cette idée-là avec une belle phrase. « Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur la joue de Dieu? » Dieu va intervenir et va réparer et Dieu ne tardera pas. Alors, Luc reprend ça et il dit « Ben non, c'est de valeur, mais il tarde, là. » Je signale aussi pour les curieux que dans la deuxième lettre de Pierre, la même idée revient. C'est au chapitre 3, oui. Mm-hmm. Et lui, il dit, ben oui, Dieu tarde, c'est pour donner une chance aux pécheurs de se convertir. Donc là, j'entends quelques chrétiens dire, ben oui, ça nous fait une belle jambe. Pendant ce temps-là, nous autres, on est mal pris. Lui, il attend que les pécheurs se convertissent. Bon. Voilà, ça, c'est des lectures d'appoint que j'invite les gens à faire. Mais c'est clair que la parabole met quand même l'accent sur la certitude du salut final. La fin du verset 8, elle est étrange. Et ça, c'est ça vaut la peine d'y revenir, même s'il ne reste pas beaucoup de temps.
« Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Là, il y a un point d'interrogation.
Oui, oui, on peut le mettre certainement. Là, c'est une question. Mm-hmm. Je ne sais pas si Jésus se la posait, mais en tout cas, Luc semble se la poser. Si on doit attendre, on ne sait plus combien de temps, là, on se doute bien que ça ne sera pas la semaine prochaine, le règne de Dieu. S'il faut fonctionner dans la durée, est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter d'un refroidissement possible de la foi? Ça, c'est une question qu'il y a des gens qui se posent aujourd'hui, hein, Claude. D'ailleurs, ça me faisait penser au titre du livre de Delumeau, « Le christianisme va-t-il mourir? » Delumeau, là, c'est pas à l'époque de Luc, là. C'est il y a quelques décennies. Hein. Ouais. Alors, le thème de la durée, de la persévérance, c'est clair que cette parabole-là insiste là-dessus. C'est présent chez Luc. Par exemple, il change la fin de la parabole du semeur. Vous savez, la parabole du semeur, et ensuite Jésus l'explique, puis il dit, le grain qui est tombé dans les épines, c'est les chrétiens qui, puis bon, et ainsi de suite. Et à la fin, le grain qui est semé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Ça, c'est la même chose dans Luc, Matthieu et Marc. Et Luc ajoute, et qui la garde et qui porte du fruit par leur constance.
Ça, c'est intéressant, ça. Ils la gardent et portent du fruit par leur constance.
C'est ça. Alors, on voit que le souci de Luc, c'est la durée dans la foi. Les enthousiasmes de la première conversion sont refroidis. La situation est difficile. Il y a une insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dure dans la foi? Et ça, je trouve que c'est une belle question pour aujourd'hui, c'est une belle question pour les lecteurs d'aujourd'hui. C'est sûr que Dieu va faire justice, c'est promis, mais il faut tenir d'ici là.
C'est ça.
Et là, je vais vous citer les Platoniens. Je trouve que c'est beau, puis je termine avec ça. Il dit, on a une foi qui est nourrie de la joie du salut déjà accompli. Parenthèse, par exemple, la guérison des lépreux. Mais aussi, c'est une foi qui doit rester dans une ardente insatisfaction, une non-résignation à l'injustice encore présente partout dans la société. Alors, si je redis ça autrement, une foi qui persévère, comme la veuve, dans la lutte contre l'injustice. C'est pas juste prier, c'est compter sur l'avenir de Dieu et travailler à l'avenir de Dieu. Alors, si je reprends le Platonien, la question du verset 8 pourrait se paraphraser ainsi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des hommes et des femmes combattant de toutes les manières possibles pour la justice du règne de Dieu sur la terre des hommes?
Et l'auteur que vous venez de nommer, c'est les Platoniens et accent aigu, PLA, 2T, E-L-I-E-R,
oui.
qui est un très bon auteur. Hein,
oui, un très bon commentaire sur
l'Évangile de Luc.
Et assez vrai. Facile à lire.
Bien, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Claude Julien qui vous parle et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.